Nous continuons notre histoire de l'Église et aujourd'hui nous parlerons des martyrs du IIe siècle. Après Domitien, empereur débauché et criminel, les deux années du règne de Nerva furent un véritable soulagement. Plus rien n'était défendu, ce qui n'alla pas sans quelques désagréments dans la vie publique. Les persécutions furent interdites, mais un tel laxisme ne pouvait durer trop longtemps. Son successeur fut Trajan, de 98 à 117, un prince fort apprécié. Il consolida les frontières de l'Empire à l'Est, en Roumanie et en Syrie. Il a veillé à une bonne administration et favorisé des institutions d'aide aux victimes des famines, famines relativement fréquentes car les moyens de transport étaient plutôt défectueux. Il fut aussi un persécuteur, comme nous allons le voir. Malgré cela, les chrétiens lui ont rendu justice. Un écrit apocryphe va même jusqu'à décrire un ange l'extirpant de l'enfer où les persécutions l'auraient plongé. Comment expliquer qu'une persécution puisse être organisée par un prince réputé bienveillant? On peut en avoir une idée en relisant sa correspondance avec Pline le Jeune, des textes dont plusieurs extraits figuraient dans les manuels de latin de ma jeunesse. Pline le Jeune, dont la bonté était proverbiale, était gouverneur de Bithynie, province située au nord-ouest de l'Asie mineure. Les chrétiens y étaient nombreux. Pline se plaignait que de ce fait, les temples étaient désertés, les viandes sacrifiées aux idoles ne se vendaient plus. Ajoutons que les Romains tenaient les associations en grande défiance, surtout dans les pays lointains. Seules les associations concernant les funérailles n'étaient pas soumises à une autorisation préalable du Sénat, disposition dont les chrétiens profitèrent largement. Donc, Trajan tenait les associations chrétiennes en défiance d'autant plus grande qu'elles étaient considérées comme athées, puisque les chrétiens refusaient les idoles. Refuser d'honorer les dieux officiels ne pouvait être le fait que de criminels. Être chrétien était illicite. Plein de modération, Pline demanda à son ami, l'empereur, des précisions quant à la procédure à suivre, demandant en particulier s'il fallait poursuivre les chrétiens repentants. Il inclinait vers la clémence. Trajan l'approuva en répondant ainsi. Il ne faut point les rechercher, mais s'ils sont dénoncés et convaincus, il faut les punir, en observant toutefois que si l'accusé cesse d'être chrétien et le prouve par ses actes, il obtient le pardon. Prouver par ses actes l'abandon du christianisme n'était pas une simple figure de style. Pline décrit les scènes d'abjuration avec précision. Par mon ordre et devant mon tribunal, ils ont invoqué les dieux, brûlé l'encens et offert des libations devant leur statue et devant la tienne, celle de Trajan. Enfin, ils ont maudit le Christ, chose qu'on n'obtient jamais, dit-on, de ceux qui sont vraiment chrétiens. Le dit-on est adorable. Pourtant, le même Pline reconnaissait qu'il n'y avait rien de criminel dans le christianisme, du moins sur le plan civil, pourrait-on dire. Ils m'ont assuré que toute leur faute consistait à se réunir à jour fixe, avant le lever du soleil, pour chanter ensemble des hymnes dans l'honneur du Christ qu'ils révèrent comme un Dieu. Ils s'engagent, par serment, non point à quelque action criminelle, mais au contraire à ne commettre ni vol, ni fraude, ni adultère, à ne jamais manquer à leurs paroles, à ne point nier avoir reçu un dépôt. Après cette cérémonie, ils avaient coutume de se séparer et se réunissaient à nouveau pour prendre part à un repas commun, il est vrai non criminel mais innocent. Ce repas était distinct donc de la messe. En quelque sorte, les chrétiens étaient poursuivis pour ne pas être politiquement corrects. La seule faute dont on les accusait était de ne pas sacrifier aux dieux officiels. Nous en avons des équivalents à l'heure actuelle, où le seul fait de défendre la vie intra-utérine ou de déclarer les unions homosexuelles intrinsèquement désordonnées, comme le fait le catéchisme de l'Église catholique, et ce de façon bien lénifiante si on compare avec ce qu'en dit saint Paul, donc le seul fait de défendre tout cela est suffisant pour se voir qualifié avec des termes qui peuvent vous conduire devant les tribunaux. Les chrétiens étaient traités de conspirateurs, alors qu'aucune preuve matérielle ne pouvait leur être opposée. Le règne de Trajan eut donc ses martyrs. La plupart mouraient sans rien dire, ce qui aggravait l'incompréhension des autorités. certains ont décrit abondamment avant leur supplice. L'un des plus célèbres fut saint Ignace d'Antioche, évêque qui fut ordonné par saint Jean lui-même. Parmi son abondante correspondance, certaines sont apocryphes, mais la plupart ont été authentifiées, notamment une épître aux Romains, chant du martyr par excellence. Condamné pour christianisme, mais citoyen romain, il fut promené par des soldats pendant plusieurs mois à travers terres et mers, comme le fut saint Paul. À chaque étape, les chrétiens accouraient pour le voir, ce qui prouve qu'il n'était pas systématiquement arrêté en dehors des époques de crise. Saint Ignace craignait par-dessus tout que l'affection des fidèles ne l'enlevât du combat vers lequel il marchait. On pourrait presque parler d'un désir immodéré du martyr. Le livre de l'abbé Yvelin comporte de nombreux passages de cette épître, en voici quelques-uns. Souffrez que je sois immolé à Dieu pendant que l'autel est prêt. Demandez pour moi la force intérieure et extérieure afin que je me montre chrétien de nom et de fait. Laissez-moi devenir la pâture des bêtes féroces. Par elles, j'arriverai à Dieu. Je suis le froment du Seigneur. Il me faut être moulu sous la dent des bêtes pour devenir le pain immaculé du Christ. Quand je serai endormi dans le Christ, je ne serai plus à la charge de personne. Je pense à une parole de ma grand-mère, peu avant sa mort, dans son lit, il est vrai. Mes valises sont prêtes, j'attends que mon Dieu vienne me prendre. On trouve aussi dans les écrits de saint Ignace, « À l'égard de vos persécuteurs, soyez doux. Envers ceux qui vous insultent, soyez humbles. À leur malédiction, opposez vos prières. À leurs mœurs farouches, votre douceur. » Il n'y a ni aigreur, ni esprit de vengeance, ni devoir de mémoire dans le cœur d'un martyr. Simplement le désir de témoigner. D'ailleurs, martyr veut dire témoin. De nombreux textes décrivent des supplices souvent effrayants qui leur ont été infligés. Outre les côtés supposés dissuasifs de ces supplices, les autorités ont profité pour fournir des distractions à un peuple où les esclaves étaient de plus en plus nombreux et qui, à corps et à cri, réclamait Panem et Circensès. Les femmes n'étaient pas exclues des supplices. Certaines étaient données à dévorer aux forts, aux fauves, toutes nues, enfermées dans les filets. Il y eut certainement un grand nombre de martyrs. Le côté spectacle n'empêchait pas une certaine considération, on ose parler d'admiration, envers ces êtres humains qui se laissaient faire sans se révolter, allant jusqu'à se précipiter devant le bureau plutôt que devant la statue d'une idole, comme le fit saint Apolline, à qui on avait coupé la langue. Les chrétiens étaient persécutés parce que leur nom même était honni, sans autre justification. Nous vivons une atmosphère analogue avec le politiquement correct. Certains qualificatifs sont passibles du rejet le plus absolu, sans analyse. Actuellement, on traite de racisme le moindre allusion à une différence. J'ai entendu parler de racisme anti-musulman, mais les musulmans n'ont jamais constitué une race. L'islam admet sans difficulté les hommes de toutes origines. Les chrétiens devenaient des boucs émissaires. Après chaque malheur public, de la sécheresse à la peste, la populace rendait les chrétiens responsables des désastres en criant « Au lion les chrétiens !» Il s'agit d'une idéologie à l'état pur. D'un autre côté, les empereurs et les gouverneurs se pensaient les gardiens de la Rome éternelle, elle eut pourtant un commencement, donc elle n'est pas éternelle. Ils se sentaient le devoir de maintenir le culte de leur dieu fondateur, même s'ils les regardaient de plus en plus comme des symboles plus que comme des réalités. C'était, croyaient-ils, indispensable à la survie de Rome. Le temps des persécutions fut aussi celui de l'apologétique. Plusieurs auteurs ont écrit à l'adresse des autorités des plaidoyers en faveur des chrétiens. Un écrit, l'Épître à Diogénète, composé à cette époque, le précise. L'auteur est inconnu, mais le texte est authentique. Les chrétiens ne diffèrent des autres hommes ni par le territoire, ni par le langage, ni par la manière de vivre. Ils se conforment pour leur nourriture, le vêtement et les habitudes extérieures aux usages de leurs compatriotes. Ce qui n'était pas le cas des Juifs, ce qui n'est pas le cas des musulmans. Et pourtant, leur vie est un prodige de sainteté et de vertu qui étonne tous les regards. Ils aiment tous les hommes et tous les hommes les persécutent. On ne les connaît pas et on les condamne. L'auteur continue. Leur conduite est irréprochable et on les punit comme des scélérats. Ils marchent avec joie au supplice parce que le supplice est conduit à la vie. Contre eux, Les Juifs arment leurs bras, les Grecs les persécutent, sans que ni Grec ni Juif ne puisse justifier la persécution dont ils les accablent. L'âme se fortifie par les mortifications de l'abstinence et du jeûne. Les chrétiens se multiplient par les supplices auxquels on les traîne chaque jour. Tel est le rang que Dieu leur a signé. Il est si considérable aux yeux de la Providence qu'il ne leur ait pas permis eux-mêmes de s'y soustraire. Les persécutions ont été un véritable baptême du sang qui a duré presque 300 ans chez les Romains et qui dure encore un peu partout. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, et les loups ont beaucoup d'appétit. À Trajan succéda Hadrien de 117 à 138, puis Antonin de 138 à 161. Une époque heureuse dans l'histoire de l'Empire romain. Hadrien n'avait pas l'âme d'un persécuteur malgré des sautes d'humeur terribles vers la fin de sa vie. Il était très attaché au décor et bâtit un palais qu'il a rempli de curiosités glanées un peu partout. Il est un administrateur excellent, il a réformé plusieurs abus. Marguerite Yourcenar a rédigé des mémoires d'Hadrien qui dépeignent très bien le personnage tel que les historiens l'ont décrit. Il a été le témoin d'une certaine désaffection des élites, comme on dit, militaires et administratives, par la vérité profonde du culte officiel. Il pressentait le triomphe d'une religion plus organisée, hésitant entre Jésus et Mitra. Au sujet des désordres publics, il a écrit à proconsul : les troubles suscités à propos des chrétiens ne doivent pas se renouveler. Il ne faut pas fournir aux délateurs une occasion de calomnie. Si ces peuples de la province ont à formuler des accusations précises contre les chrétiens et s'ils veulent les soutenir en personne devant votre tribunal, qu'ils recourent à cette voie juridique, mais n'aient plus la prétention de l'emporter par des clameurs tumultueuses. Si l'accusation a été calomnieusement intentée, punissez le délateur pour une peine proportionnée à sa méchanceté. Nous sommes loin de Néron et de Dioclétien. Il y eut pourtant des martyrs, mais les temps étaient plus calmes et les évêques se mettaient à profit pour organiser solidement une église qui ne cessait de croître. Il faudrait aussi parler de l'art paléo-chrétien, qui se développait surtout autour des tombeaux. Le Christ est représenté imberbe. Certains faisaient une analogie entre le Christ qui rachetait les âmes et Eros qui sauvait Psyché des conséquences de sa faute après bien des épreuves. L'analogie n'est pas sans poésie, mais assimiler le Christ à Eros a fini par scandaliser bon nombre de fidèles. Dès le 5 ou 6e siècle, le Christ était toujours barbu. Plusieurs sujets dansants sont assurés des danses païennes. Un sujet fréquemment représenté est la résurrection de Lazare et naturellement la scène. Mais la crucifixion n'est pas montrée en image avant l'époque mérovingienne. Tout au plus, peut-on citer la caricature de ce jeune chrétien en adoration devant un âne crucifié, que l'on rencontre de temps en temps et que j'avais, moi, dans mes livres d'instruction religieuse. J'ignore depuis quand la croix en or ou en pierrerie figure au cou des élégants. Dans l'art paléo-chrétien, les mages, imberbes aussi, sont coiffés de bonnets phrygiens car ils viennent d'Orient et sont libres. Cet art est très riche. On peut en voir des exemplaires en France, à Saint-Maximin en Provence, à Aix, à Déol près de Châteauroux, et aux Aliscans, au cimetière d'Arles, et peut-être en bien d'autres endroits. De tels sites sont toujours passionnants. Ils sont les témoins de traditions qui, à l'instar des photos de famille, ne sont certes pas fondateurs de notre foi, mais lui apportent une tendresse qu'il serait bien imprudent de négliger. La prochaine fois, nous parlerons de la chrétienté au IIIe siècle et des premières crises des premières crises, des premières hérésies. Je vous prie de m'excuser parce que je suis un peu enrhumé et je n'ai pas la voix très bonne. À la prochaine fois donc, je vous souhaite tous de joyeuses Pâques. Et comme on dit en russe, pour vous saluer, le Christ est ressuscité.